Eh bien, je vous propose de continuer dans cette attitude de louange, de glorification de Dieu, en vous lisant un passage qui est dans 2 Chroniques, au chapitre 6. Et c'est le passage de la dédicace du temple de Salomon. Vous allez me dire quel rapport. Alors, qui connaît ce passage de 2 Chroniques 6? Juste pour voir. Bravo Sylvie. Serge aussi. Waouh. Je pense qu'on connaît tous. On l'a tous lu au moins une fois. Mais je pense que même pour ceux qui le connaissent, c'est peut-être juste un vieux texte qui rapporte un événement qui s'est passé il y a presque 2500 ans, à l'époque du royaume d'Israël. Ça a tout juste un intérêt historique. Pour d'autres, c'est peut-être plus ou moins flou. C'est peut-être rangé même dans les passages un peu rébarbatifs de l'Ancien Testament. Alors, il y a peut-être parmi nos invités, des personnes qui ne connaissent pas. Ce passage raconte en fait un événement historique qui s'est passé il y a à peu près donc 2500 ans, vers 500 avant Jésus-Christ, quand en Palestine, dans le royaume d'Israël, un roi, Salomon, a construit un temple pour Dieu. Donc c'est un événement historique. Mais je pense que ce n'est pas juste quelque chose qui est marqué dans la Bible pour nous raconter ce qui s'est passé. C'est, à mon avis, c'est bien plus que ça. Alors je vais vous faire une lecture un petit peu longue, presque 10 minutes. Vous allez me dire, c'est trop long. Eh bien moi, personnellement, je trouve que c'est jamais trop long. L'important, c'est la parole. Tout ce qu'on rajoute après, j'ai toujours l'impression que c'est du commentaire, que ça dilue, hein, et qu'on perd de la force. Et je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais dans l'Ancien Testament, surtout, il y a plusieurs passages, plusieurs moments de l'histoire du peuple hébreu, où le peuple d'Israël redécouvre la parole de Dieu, parce qu'il l'avait délaissée pendant des années, parfois des générations. Et donc la parole s'était perdue, même physiquement. Ils n'avaient plus les livres dans lesquels était écrit tout ce que Dieu avait fait pour eux. Ils étaient même partis vers d'autres dieux. Ils s'étaient vautrés dans l'infidélité et le paganisme. Et parfois, quand le Seigneur intervient, eh bien, le peuple retrouve la parole. Et alors, ils organisent des lectures publiques pendant des jours entiers parce qu'ils avaient soif de connaître la volonté de Dieu, de revenir à Dieu, de se nourrir spirituellement, comme des assoiffés qui trouvent une source d'eau. Et je pense que c'est vraiment cette démarche qu'il faut avoir face à l'Écriture. Donc, 2 Chroniques, à partir du chapitre 5. C'est un texte très riche, ça peut sembler aride, mais moi j'ai confiance dans la puissance de la parole de Dieu. Donc soyez attentifs. Donc 2 Chroniques 5, au verset 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les lévites qui étaient chantres, Asaph, Eman, Yedutun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Eh bien, à ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Chapitre 6. Alors Salomon dit, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom, et je n'ai pas choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël, mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida, et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. » David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, « Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtira la maison, ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel accomplit la parole qu'il avait prononcée. « Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche, où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. » Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël et il étendit les mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. » Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, s'il vient jurer devant ton autel et dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leurs pères. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura pas de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle il doit marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu lui as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, quand c'est dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies, quelles qu'elles soient, si un homme, si tout ton peuple d'Israël, fais entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende les mains vers cette maison. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun. Car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain. À cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite. S'il t'adresse des prières, le regard tourné vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce-le des cieux. Exauce leurs prières et leurs supplications et fais leurs droits. Quand ils pécheront contre toi, parce qu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qu'ils emmènera captifs dans un pays lointain, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », mais s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans leur pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, le regard tourné vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications. Fais leur droit et pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, tu ne repousses pas ton loin. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Et le début de 2 Chroniques 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consomma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi, le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Beaucoup de choses dans ce texte. C'est très riche, c'est très dense. Mais je vais mettre juste en évidence quelques points et vous dire pourquoi ça m'interpelle précisément. Donc on voit un grand événement. Il y a une grande fête, il y a plein de prêtres en grande tenue, il y a plein d'instruments, rien que plein de trompettes, il y a 120 musiciens, des chanteurs, il y a le roi, il y a toute sa famille, il y a les notables, il y a les chefs de tribu, tout le peuple. Ça devait être vraiment énorme. Ça devait être la cérémonie du siècle. Parce que le temple représente beaucoup pour le peuple d'Israël. Déjà, il y a un aspect technique. C'est un beau bâtiment. C'est très riche, il y a des colonnes, il y a des dorures partout. Alors que le peuple d'Israël était un peuple de nomades, là ils ont un bâtiment splendide qui rivalise avec tous les autres temples qu'ils pouvaient voir dans les autres pays, dans les autres villes de l'Antiquité. C'était aussi un bâtiment très pratique parce qu'il y avait tout ce qu'il faut pour l'organisation du culte, la place pour tout le matériel, etc. Et il y a auparavant toute la description de la construction du temple, toutes les listes qui décrivent minutieusement, précisément, dans les dimensions, dans les formes, dans les matériaux, l'autel, les bougeoirs, les ustensiles, tout ce qu'il faut pour rendre un culte à Dieu. C'était vraiment toutes les commodités, tout était organisé et planifié. C'était pratique. Et dans le texte, on fait allusion à l'Arche d'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'est ce qui rappelait pour le peuple juif l'alliance que Dieu avait passée avec son peuple lorsqu'il l'a délivré d'Égypte et qu'il lui a donné ses lois. Et auparavant, cette loi, elle était sous une tente. C'était logique, puisque c'était un peuple de nomades. C'était pratique, mais c'était temporaire. Et ça suivait, l'Arche de l'Alliance suivait le peuple dans ses déplacements. Mais à ce moment-là, lorsque Salomon construit le temple, le peuple s'est installé dans la terre promise que Dieu lui avait promis de lui donner. Il s'est installé, il est devenu puissant, il a bâti des villes, des palais, et Salomon se dit, c'est maintenant au tour de Dieu d'avoir en fait sa demeure parmi nous. Et l'arche qui symbolise pour le peuple cette alliance, ce traité que Dieu a fait avec son peuple, eh bien, elle est déposée dans le temple. Elle est bien à l'abri. Et c'est une avancée, c'est une manière de concrétiser la relation de Dieu avec son peuple. C'est aussi, quelque part, le temple, le symbole de la réussite du peuple de Dieu dans la terre promise. Ensuite, il y a un aspect religieux. Le temple de Salomon, lorsqu'on lit sa description, il avait vraiment été pensé dans les moindres détails pour rendre un culte à Dieu selon la loi et les commandements qu'il a donnés à son peuple. Il y a tous les sacrifices, tous les rites, tous les préceptes qu'on voit dans la loi de Moïse. Maintenant, le peuple va pouvoir les observer à la lettre pour rendre un culte à Dieu. Et les prêtres, tous les sacrificateurs auxquels le texte fait allusion, eh bien, ils vont être les garants de la loi, les docteurs de la loi. Ils vont enseigner le peuple, ils vont faire respecter la loi, ils vont conduire, guider le peuple pour éviter tout ce qui est dérive, les cultes païens et les interprétations. Le temple, c'est aussi là que devront être apportées toutes les offrandes, toutes les dîmes, tous les sacrifices que le peuple apporte à Dieu pour lui rendre un culte selon la loi. Après le temple de Salomon, on peut penser que c'est aussi un petit peu politique, parce que ça permet de renforcer l'unité et l'identité nationale. Un même Dieu, un même lieu de culte, les mêmes lois pour tout le monde, ça permet aussi à Salomon d'affirmer qu'il est le roi d'Israël, de par la promesse que Dieu a faite à David son père. Et il le rappelle plusieurs fois. Et le temple, il y a même un aspect juridique et moral. Le temple, c'est l'endroit où le prêtre dit aussi qui est selon la loi ou pas, qui respecte la loi ou pas. Au verset 22, on nous dit que s'il y a un litige, on prête serment dans le temple, et c'est Dieu lui-même qui rend justice, qui condamne le coupable, qui a mal fait et qui ne veut pas changer, et qui innocente le juste accusé à tort. Donc le temple, on peut bien imaginer, on peut bien comprendre que c'est le centre de la vie sociale et politique de l'époque. C'est vraiment le symbole du royaume d'Israël. Mais c'est encore bien plus que ça. Il y a une dimension supplémentaire. Parce que c'est évidemment le lieu où tout homme droit et fidèle va pouvoir rendre à Dieu un culte sincère et qui lui est agréable, lui offrir les sacrifices, accomplir les rites, et obtenir son pardon et sa bénédiction. Alors les sacrifices dans l'Ancien Testament, c'est pas toujours quelque chose de négatif. Vous savez, comme quand on dit « j'ai fait tellement de sacrifices », on a l'impression qu'on porte le malheur du monde, ou une punition. À l'époque, le sacrifice, il faut bien comprendre que c'était l'observation rituelle de la loi, le moyen d'exprimer devant Dieu ses regrets pour ses fautes et ses péchés. C'était ce qu'on appelait les sacrifices d'expiation, mais aussi sa joie, sa gratitude, en retour des bénédictions qu'on attribue à Dieu, avec des sacrifices de reconnaissance. Et vous remarquerez que ce n'est pas marqué que si quelqu'un offre un agneau à Dieu, Dieu lui pardonnera ses fautes. Et que si c'est un bœuf, eh bien Dieu lui pardonne encore plus. Ça, ce serait acheter Dieu, ce serait de la religion. Dans le texte, on nous parle bien de repentance, de changement, de désir de suivre Dieu. Et le sacrifice, c'est le moyen de montrer concrètement, devant tout le monde, son attitude, sa disposition de cœur envers Dieu. En fait, on peut analyser la démarche du sacrifice de la manière suivante. Une personne du peuple a commis une erreur involontaire, ou même un péché, une faute plus ou moins volontaire. Donc, selon la loi, il a offensé Dieu. Cette personne en prend conscience et le regrette. Donc, elle va au temple, elle offre un sacrifice pour reconnaître publiquement sa faute, pour affirmer qu'elle considère que la perte financière que ça lui coûte, que représente le sacrifice, eh bien, n'a pas de commune mesure avec l'importance du respect de la loi et de la volonté de Dieu. Et donc, c'est une manière de demander pardon. Et il faut bien comprendre que cette démarche, c'est celle que Dieu demande. Il ne demande pas des sacrifices pour le sacrifice, il demande cette repentance. Et c'est cette repentance qui permet la justification. Parce que c'est écrit dans la loi, qu'en accomplissant tel sacrifice, en regrettant ses fautes, eh bien, on est justifié. C'est écrit dans la loi et c'est une promesse de Dieu pour le peuple. Et c'est là que la loi prend tout son sens, en tant qu'expression de la foi sincère en Dieu, de la foi dans sa justice, dans sa bonté. Et d'ailleurs, dans tout l'Ancien Testament, on voit régulièrement, parce que ça revient d'une génération après l'autre, on voit souvent que Dieu, par la bouche des prophètes, reproche à son peuple de lui offrir tous les sacrifices qu'il faut, mais sans demander pardon, de le prier avec du bout des lèvres, avec les mots, mais sans avoir un cœur qui est repentant, d'avoir un cœur éloigné de lui. Et moi, je trouve frappant, dans la prière de Salomon, dans cette dédicace du temple, eh bien que, en fait, c'est une grande prière. Et c'est une prière sincère, qui montre, en fait, ce qui compte vraiment. Le roi Salomon aurait pu faire un beau discours officiel, dire « j'ai fait ceci, j'ai décidé cela ». Il aurait pu se mettre en valeur. Et quand on lit les livres historiques de la Bible, dans les chroniques, dans les rois, on s'aperçoit que plusieurs rois ont fait ça. Ils ont imposé des rites, des cultes, ils ont bâti des villes, des lieux saints, mais pour leur propre gloire, pour leur pouvoir politique. Le temple de Salomon, ça aurait pu être ça. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'il a conscience que le temple, ce n'est pas seulement un bâtiment. Ce n'est pas seulement l'endroit où il y a l'identité nationale qui se met en place. Ce n'est même pas seulement le lieu où on exerce le culte religieux dans toute sa légalité. Pour Salomon, ce qu'il réalise, c'est que le temple, c'est l'endroit où Dieu réside, où on peut trouver sa présence si on la cherche. Et en fait, dans cette prière, Salomon met en valeur tout ce qui est le fondement théologique, on va dire, ou spirituel de ce bâtiment, c'est-à-dire ce qui lui donne son vrai sens. Il rappelle que le Dieu d'Israël, c'est le libérateur qui les a fait sortir d'Égypte, qu'il est le créateur du ciel et de la terre, que ceux-ci ne peuvent le contenir parce qu'il dépasse complètement la réalité matérielle, en raison de sa grandeur, de sa sainteté. Il est au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer. Mais ce qu'il rappelle aussi, Salomon, c'est que ce Dieu si grand accepte d'être présent à un endroit précis pour son peuple et pour se laisser trouver par lui. C'est comme si Dieu acceptait de se réduire aux dimensions humaines, de se limiter à un endroit précis pour se rendre accessible à son peuple, pour se laisser trouver. Et le symbole le plus marquant, je pense, c'est que, comme on le voit au chapitre 5, on nous dit que Salomon fait monter l'arche de l'alliance et la tente de la rencontre de l'endroit où ils étaient pour les mettre dans le temple. L'arche de l'alliance, c'était donc le signe de l'alliance que Dieu fait avec son peuple après l'avoir libéré d'Égypte, après lui avoir donné sa loi. Dans l'arche de l'alliance, qui était une sorte de boîte, il y avait les tables de la loi avec les 10 commandements. La tente de la rencontre à laquelle il est fait allusion, c'est l'endroit où Moïse, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, où Moïse pouvait, et Moïse seul, rencontrer Dieu. Il pouvait consulter Dieu pour le peuple. On voit ça dans le livre d'Exode, chapitre 33. Maintenant, en faisant venir l'arche de l'Alliance et la tente de la rencontre dans le temple, Salomon nous dit que c'est le temple maintenant où chacun peut rencontrer Dieu. Il n'y a plus besoin d'intermédiaires, même s'il y a des sacrificateurs, mais que c'est une démarche personnelle de chacun. Chacun y a un libre accès. N'importe qui dans le peuple d'Israël peut se présenter devant Dieu, offrir un sacrifice et lui rendre un culte personnel pour le prier, pour implorer son pardon, pour le louer, pour rechercher sa face, c'est-à-dire pour vouloir lui plaire et faire sa volonté. Et ça, c'est une grande avancée. Il y a encore un autre point qui m'interpelle, c'est que si on lit les chapitres précédents, on voit que pour la construction du temple, tout le monde a participé. Les hommes habiles, comme c'est marqué, c'est-à-dire les artisans, ceux qui savaient faire, les rois, le roi, les prêtres, les chefs de tribu, tout le peuple, chacun ont donné de leur temps, de leurs biens et avec joie pour construire le plus beau temple à Dieu. On voit aussi que Salomon sacrifie des milliers d'animaux. Alors ça peut sembler barbare, ça peut sembler exagéré, mais c'était peut-être tout simplement la manière d'exprimer à l'époque la joie et la reconnaissance envers Dieu. Et pour honorer Dieu, on lui sacrifiait des animaux, sachant qu'à l'époque, les troupeaux, les animaux, c'était la seule richesse, même pour Salomon, même pour le roi. C'était la seule garantie de ne pas mourir de faim en période de disette. Donc c'est un vrai effort, c'est un sacrifice. Et en plus, c'est bien précisé qu'on ne lui offre pas à Dieu les animaux malades, les boiteux, les moches. Bien sûr, mais au contraire, on lui offrait ceux qui étaient sans tache physique, mais comme image de l'absence de tache spirituelle, l'absence de péché. On offre à Dieu le meilleur. Et là aussi, dans la vie quotidienne du peuple d'Israël, ce n'était pas anodin d'offrir un sacrifice. Pour certains, ça devait être dur. Tout le monde ne pouvait pas se permettre. Il y avait même des sortes de sacrifices discount, entre guillemets. Dans la loi, c'est précisé que celui qui est vraiment trop pauvre pour offrir un agneau ou un sacrifice qui coûte, pouvait à la rigueur offrir même une tourterelle. L'important, c'était que chacun puisse offrir un sacrifice à Dieu. Et moi, j'y vois justement un enseignement de ce que c'est que vraiment donner la dîme. Voilà, il y a un parallèle étroit avec ce temple de Salomon. De même que le temple pouvait être soit l'endroit où on adore Dieu et on voit sa présence, si on a la bonne disposition d'esprit, soit juste un endroit religieux où on accomplit les rites légalistes, eh bien, de la même manière, donner sa dîme ou faire un sacrifice à Dieu, ça peut être une obligation à laquelle on se soumet en rechignant, ou alors l'expression de notre reconnaissance envers le Seigneur et de notre joie de le connaître. Et ça, ça change tout. Parce que dans un sens, dans un cas, si c'est une obligation, ça n'a aucun sens, et même ça irrite Dieu. Il y a des passages où Dieu parle à son peuple, toujours par la bouche des prophètes, et leur dit « Mais tout, la fumée de vos sacrifices, c'est une fumée qui m'irrite, parce qu'on le faisait par obligation, par légalisme. » Et donc ça n'a aucun sens devant Dieu. Mais par contre, si ce qu'on donne à Dieu, le sacrifice ou la dîme, ça, c'est l'expression de notre reconnaissance, eh bien là, ça lui est agréable. Je ne sais pas si... Moi, ça m'a évoqué ce passage dans Marc 12, au verset 41, où Jésus parle justement de ça. Il est dans le temple, et il regarde des personnes qui font des offrandes à Dieu et qui donnent au temple. Et au verset 41, on nous dit « Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vit aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé les disciples, leur dit « Je vous le dis, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Jésus parle de cette pauvre veuve qui donne sa dîme dans le temple. Il la met en comparaison avec des riches qui donnent beaucoup, peut-être l'équivalent de milliers d'euros. Et ça, c'est très bien. Certainement que les prêtres voyaient ça aussi, ils se réjouissaient, parce que ça permettait de faire fonctionner le temple. Mais Jésus ne les félicite pas, ces personnes riches. Il y a même d'autres passages, dans Matthieu 6, où Jésus dit des mêmes personnes qui font des prières, des belles prières pour être bien vues, qui veulent être considérées des hommes, mais qui ne se soucient pas de plaire à Dieu. Et Jésus a cette phrase lapidaire, il dit « Ils ont leur récompense, ils ont ce qu'ils cherchent, mais ils ne plaisent pas à Dieu. » Et par contre, il donne en exemple cette pauvre veuve, parce que même si elle ne met que deux petites pièces, peut-être quelques euros, Elle a donné en valeur aux yeux de Dieu beaucoup plus que tout ce, que les autres ont mis, parce qu'elle a donné même de ce qu'elle avait pour vivre. Alors, ce n'est pas une incitation à être irresponsable et à se dépouiller de tout sous prétexte de spiritualité. Ça, ce serait tout à fait déplacé. Mais je me dis que cette pauvre veuve a certainement des raisons. On ne sait pas lesquelles, on ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Peut-être qu'elle avait vraiment à cœur d'honorer Dieu en disant, voilà, même ce dont moi j'ai besoin, je te le donne. Peut-être que c'était un geste de reconnaissance, de confiance, ou un geste peut-être de désespoir, d'abandon, on ne sait pas. Et de toute façon, Jésus, le texte ne nous dit pas ce dont il s'agit. Et à la rigueur, ça ne nous regarde pas. C'est vraiment entre la personne et Dieu. Mais elle est citée en exemple. Parce qu'elle donne à Dieu de tout son cœur. Et là, le Seigneur ne peut pas être insensible. Et c'est là qu'il bénit. Elle, c'est Dieu qui la récompense. Alors, ce n'est pas du donnant-donnant. Ce n'est pas « je donne la dîme de mes revenus, par exemple, pour que Dieu me rende à 24 mois 15% d'intérêt ». Ça, ce serait du placement bancaire. C'est un calcul intéressé. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça, ce serait forcer Dieu. Par contre, je peux affirmer, et ça j'en ai fait l'expérience, et donc pour moi c'est une certitude, que si on donne à Dieu fidèlement et sans arrière-pensée, sans rien attendre, eh bien Dieu bénit en retour, comme lui l'a décidé, quand il l'a décidé, pas toujours comme nous on pensait, mais toujours bien plus et bien mieux que ce que nous on aurait espéré, à condition d'avoir cette bonne attitude. Et la dîme, ce n'est pas un peu d'argent, on ne fait pas l'aumône à Dieu, c'est marqué que la terre et toutes les richesses qu'elle contient lui appartiennent. Ce n'est pas non plus un petit peu de temps, ce n'est pas les miettes de notre planning, Dieu n'est pas un bouche-trou quand on n'a rien d'autre à faire. Ce n'est pas non plus lui donner ce qui ne nous coûte pas, ou ce qui ne nous coûte pas trop d'efforts. C'est vraiment lui donner en premier lieu ce qui a de la valeur à nos yeux, dans le but de l'honorer en montrant que c'est lui qui a la primauté, que c'est lui qui a la première place. Alors, avez-vous compris pourquoi je vous parle de tout ça? Non? Fabienne n'a pas compris. Eh bien, parce que, toute proportion gardée, bien entendu, moi je fais le parallèle avec la nouvelle salle. Ça fait rigoler plus d'un. Mais moi je suis désolé, c'est exactement la même chose. C'est un beau bâtiment, pratique, confortable, il y a tout ce qu'il faut, mais pas seulement. Il y a aussi un rôle fédérateur, identitaire. C'est l'église protestante évangélique de Champagnole. Il y a aussi un rôle de représentation sociale, de visibilité, mais pas seulement. C'est aussi l'endroit où le peuple de Dieu peut se réunir pour le louer et profiter de la communion fraternelle et être bien, mais pas seulement. C'est aussi, et j'ai envie de dire, c'est surtout même, aussi incroyable que ça puisse être, c'est le lieu où le Seigneur est présent et où il veut manifester sa gloire. Alors dans la nouvelle salle, je ne pense pas que lors de l'inauguration, la présence de Dieu va se manifester comme dans le temple de Salomon avec le feu, la fumée. Autrement, ça va affoler les détecteurs de fumée, on va sortir les extincteurs. C'est peut-être plus le bon moyen de manifester sa présence. Alors c'est rare que je dise ça, mais dans ce cas précis, je pense que cette manifestation, c'est rare que je dise que ce qui est écrit n'est plus d'actualité en fait. Mais dans ce cas précis, je pense que cette manifestation de la gloire de Dieu, c'était ce qu'il fallait pour que le peuple comprenne que Dieu était vraiment là. Ça lui parlait. Bon, aujourd'hui, nous, on ne comprendrait certainement plus. Nous, c'est peut-être plus de cette manière qu'on se représente la présence de Dieu. Parce qu'on a compris, parce qu'on a les évangiles, on a compris que la présence de Dieu, que la gloire de Dieu, c'est une réalité spirituelle. Mais cette réalité, même si elle est spirituelle, elle n'en est pas moins que la présence de Dieu doit être réelle. Sinon, la nouvelle salle, ce sera qu'un bâtiment religieux de plus. Si la parole de Dieu, la présence de Dieu, c'est un symbole. Ce sera comme le peuple de Jérusalem, qui n'était qu'un tas de pierres, qu'un édifice religieux, grandiose, mais vide de la présence de Dieu quand le peuple se détournait de lui, quand le peuple n'était même plus capable d'entendre sa voix, quand il cherchait même plus sa présence, quand il se contentait d'offrir des sacrifices par religion. Moi, je pense, enfin, en tout cas, je parle en mon nom, moi aussi, je veux voir le feu et la gloire de l'Éternel descendre sur sa maison, comme c'est marqué. Et pas juste de manière symbolique, pas juste comme une belle image religieuse, mais comme une profonde réalité spirituelle. En fait, quand je fais la différence entre une image religieuse et une réalité spirituelle, si vous écoutez les discours de personnes religieuses, même sincères, qu'on peut voir autour de nous, ces personnes-là sont tout à fait capables de parler de la gloire de Dieu, sont tout à fait capables de reprendre ce texte, ils sont tout à fait capables de vous parler de l'amour, de la puissance de Dieu. Le problème, c'est que si ça reste là, si ça reste une certaine idée, si ça reste la répétition de ce qu'on a pu lire ou entendre, eh bien c'est mort. Parce qu'ils ne vivent pas cette réalité spirituelle. Juste une image, une anecdote autobiographique et véridique, comme d'habitude. Il y a quelques années, je me rappelle, j'ai été choqué d'assister en fait à un office religieux traditionnel. Ça aurait pu être tout aussi bien un protestant, catholique, orthodoxe, calviniste ou évangélique. De toute façon, il y a des religieux dans toutes les étiquettes. Mais donc, il y avait une cérémonie qui aurait dû être joyeuse, et j'ai été choqué parce que c'était lugubre. Ah, il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus comme la lumière du monde venue illuminer les ténèbres. Je ne pouvais pas ne pas être d'accord avec ça. Mais tout ce qu'on voyait, c'était une personne qui portait une malheureuse bougie dans sa main, une bougie, vous savez, une bougie chauffe-plat, qui vacillait, on avait l'impression qu'elle avait du mal à ne pas s'éteindre. Et tout autour, dans ce bâtiment-là, c'était froid et lugubre. C'était vraiment sinistre. Et c'est vrai, j'étais d'accord avec les paroles. Mais manifestement, la personne n'avait pas la portée de ce que ça signifiait. Elle ne le vivait pas. Jésus est la lumière du monde. C'est écrit dans la parole. Il y a tellement de choses tout à fait exactes, parce qu'elles sont clairement exprimées dans la parole, qui disent et redisent, que les religieux disent et redisent depuis des siècles. Mais si on ne le vit pas, c'est mort. Quand Jésus illumine un cœur, je le disais lors de cette cérémonie, Jésus est vraiment la lumière du monde, mais ce n'est pas une petite veilleuse qui s'allume. C'est plus que un grand soleil d'été qui, quand on ouvre les volets, il n'y a plus de ténèbres, il n'y a plus de froid. Il n'y a plus que la lumière, la chaleur de Dieu qui vous inonde. Donc, il ne suffit pas de parler de la gloire de Dieu. Il ne suffit pas de parler du temple de Dieu comme de l'endroit de sa présence, parce que c'est écrit et qu'on répète ce qu'on a lu. Il faut le vivre. Il faut que cette présence soit une réalité spirituelle dans chacun d'entre nous, dans nos cœurs, dans nos vies, et aussi dans l'Église, donc, qui est un nouveau temple de Salomon. C'est l'endroit où la gloire de Dieu, sa puissance, son amour sont évidents pour tous. Et dans le Nouveau Testament, on nous le répète à plusieurs reprises, dans 1 Corinthiens 6, au verset 19, l'apôtre Paul nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même » Dans 1 Corinthiens 3, il nous dit « Ne savez-vous pas » J'aime bien cette répétition, « Ne savez-vous pas » On a l'impression que même à l'époque, les premiers chrétiens ne comprenaient pas. Mais « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu » et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple est saint, et c'est aussi ce que vous êtes. Si chacun d'entre vous ce matin, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes saint, et vous êtes l'endroit où la présence de Dieu est manifestée. Donc si on a réellement donné notre vie au Seigneur, donc encore une fois, pas quelque chose qu'on répète parce qu'on l'a entendu dire et que c'est de la religion, mais parce qu'on l'a vraiment vécu. Si on a donné notre vie au Seigneur, eh bien, si on a reçu avec joie son Saint-Esprit, si on vit vraiment pour lui, eh bien, on est devenu son temple. Et c'est un temple dans lequel on n'offre plus des sacrifices d'animaux, mais on offre nos propres vies. On les offre non pas pour la destruction, comme les animaux, mais c'est tout l'inverse. On l'offre pour la vie spirituelle avec le Seigneur. Alors, je voulais vous parler du tabernacle. qui n'est pas qu'un juron québécois, hein. Mais en fait, on est les tabernacles vivants du Seigneur. Quand on reçoit sa présence en soi, quand on vit cette présence. Et j'aimerais terminer en lisant encore un passage. C'est la réponse de Dieu à Salomon. Parce que là, vous remarquerez la dédicace. Dieu présente tout ce qui se passe. Salomon présente à Dieu le temple, le peuple, le prix. Mais Dieu ne fait rien. Il ne répond, il ne parle pas. Et le chapitre d'après, on voit que Dieu répond. Et on nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit : J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est une promesse. C'est une promesse. Et ce qui était valable dans le temple de Salomon à l'époque, eh bien c'est encore valable aujourd'hui, et à plus forte raison, dans le temple qu'est l'Église, pour chacun d'entre nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Que ce soit dans la tente de la rencontre, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, que ce soit dans le temple de Salomon, quand leur offrait de culte, que ce soit dans la nouvelle salle qu'on va avoir, le Seigneur veut manifester sa présence et sa gloire parmi son peuple, dans son Église, dans nos cœurs et dans nos vies. Et ça, je crois que si on comprend ça, eh bien, c'est ce qu'on verra s'accomplir. Je vous propose de prier. Si quelqu'un veut bien prier pour terminer ce moment de culte. 1, 2, 3, trop tard, c'est moi. Seigneur, merci. Merci parce que tu es présent dans nos cœurs. Merci parce que ta gloire et ton feu sont en nous, Seigneur. Et c'est une grâce que tu nous fais. C'est une réalité dans nos vies. C'est ce qui nous permet d'être sûrs de ta bonté, de ta puissance. C'est ce qui nous permet de te faire confiance, Seigneur. Et nous voulons vraiment cultiver, nous voulons vraiment chérir cette présence dans nos cœurs. Merci pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu parles à chacun de la manière dont il peut t'entendre, Seigneur.